chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Le printemps est maussade et le soleil rare. La tristesse nous envahit parfois. Les nouvelles sont mauvaises. Les journalistes en font leur chou gras. Presque toujours. Alors l'esprit s'évade et se met à rêver. À des lendemains qui chantent à une autre vie, remplis de jolies choses, de meubles précieux, d'un luxe effréné, de palais enchantés. Vienne, la chambre des merveilles de la Kunstkammer des Habsbourg ouvre son trésor après 10 ans de travaux. Raphaël Morata, pour Point de vue, a relaté l'inauguration de ce vaste cabinet de curiosités qui recèle des objets aussi précieux que surprenants dans un déluge d'or, d'ivoire et de pierres précieuses. Le Kunsthistorisches Museum de Vienne n'a pas souhaité communiquer sur les mesures de sécurité prises autour de la fameuse Saliera de Benvenuto Cellini. Mais il faudra constituer une équipe de cambrioleurs dignes d'Ocean's Eleven pour s'emparer une seconde fois de ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie, considéré comme la Mona Lisa des sculpteurs et assuré pour 60 millions d'euros. En 2003, cette salière en or, ébène et émail, commandée par le roi François Ier et offerte à l'archiduc Ferdinand de Tyrol, avait en effet été dérobée. Après une rocambolesque enquête de 3 années, elle sera retrouvée en bon état, dans une caisse de plomb, enterrée dans un bois à 90 km de la capitale autrichienne. Ce fric-frac, certes traumatisant, aura finalement accéléré la modernisation de la Kunstkammer, au sein d'un musée plus connu pour sa collection de Bruegel l'Ancien. Après 10 ans de travaux, une 20aine de chambres des merveilles, issues des trésors, vanités et autres curiosités de la maison des Habsbourg, déroule un inventaire stupéfiant de 2162 objets, sculptures en bois ou en pierre, dont la célèbre Madone de Krumau. statuette en bronze, pièce d'ivoire ou d'ambre, milieu de table avec des glossopètres, coupe dragon en pierre lapis lazuli, jeu à boire, horloge. Automate, tapis muraux, pièces de monnaie, armes, jusqu'au service de petit déjeuner de Marie-Thérèse, sur près de 2717 m², plus de 1000 ans d'histoire d'une dynastie, dont l'archiduc Ferdinand II et l'empereur Rodolphe II furent sans nul doute les plus grands mécènes. Leurs collections étaient des portes ouvertes encyclopédiques sur le monde et l'univers, quand la prouesse du geste magnifiait la puissance d'une dynastie qui domina un jour un empire où le soleil ne se couchait jamais. Comme cette cape en ivoire, au pli inouï du roi Joseph Ier terrassant une furie. Ces visages en bois d'Adam et Ève, réalisés par Conrad Meyer, sculpteur de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, ou encore ces coupes dragons, réalisées par le milanais Gasparo Miscroni, pour l'empereur Maximilien II. Autant de chefs-d'œuvre qui valent bien le vertige de la tour de Babel, peinte par Bruegel. L'autre trésor du musée. Voici la description de quelques merveilles exposées dans ce musée viennois et qui font la renommée de celui-ci. Apollon et Daphné, sculpture en ivoire, réalisée par Jacob Auer pour l'empereur Léopold Ier, sculptée à la fin du XVe siècle par Francesco Laurana. Un buste de marbre, polychrome, la Madone de Krumau, taillée dans du grès calcaire à Prague vers la fin du XIVe siècle. Ma préférée, hiératique. Une vanité imaginée par George Sirling, l'aîné, vers 1470-1480. Exécutée autour des années 1565-1570 par le milanais Gasparo Miseroni, cette coupe dragon en lapis-lazuli, or émaillé, rubis, émeraude, perles et grenat a sans doute été commandée par l'empereur Maximilien II. Luxe est leur métier. Les artisans ont du talent et font revivre les merveilles oubliées. Antoinette Rose maîtrise le fil de soie. Jean-Jacques Talpin l'a rencontré. La PME Jean Rose est née au XVIIe siècle, à Tours, présidée aujourd'hui par Antoinette Rose, représentante de la 12e génération. Elle perpétue le savoir-faire du tissage de la soie. Un métier rare pour tisser tentures, rideaux ou tissus d'ameublement de luxe. Cette excellence lui vaut de travailler avec des clients prestigieux. Les familles royales d'Angleterre ou des Pays-Bas, les nouveaux riches asiatiques ou russes et bien sûr les monuments historiques en font partie. Elle a aussi réalisé une chasuble pour le pape ou des tentures pour le cinéma, tout en gardant les clients fidèles que représentent les décorateurs et les architectes d'intérieur. Antoinette Rose entend perpétuer cette histoire de la soie, matière magique, dit-elle, qui prend la lumière, qui scintille et inspire l'évasion et le sensuel. Une passion qui repose avant tout sur l'amour du travail bien fait. Labellisée entreprise du patrimoine vivant, l'atelier doit se battre pour conserver l'excellence du Made in France. Pour des clients fortunés, la soie est toujours prestigieuse, se rassure Antoinette Rose. Avec une réalisation unique, une qualité inégalable, une image du luxe, une chaleur. Notre production ne se démode pas, contrairement à la décoration contemporaine. Les grands couturiers ont aussi une vision du luxe, en retrouvant celui de l'âge d'or du royaume de France. La vision de Christian Lacroix, par exemple. Pour sa réouverture, le musée Cognac-G, consacré au XVIIIe siècle, fait appel au couturier Christian Lacroix. Sa mission, inviter 40 artistes contemporains pour des face-à-face entre les collections du musée et des photographies, textiles, pièces de design et installations d'artistes. Une lecture originale d'œuvres classiques, très classiques, et contemporaines dans une magistrale mise en scène. L'exposition s'appelait « Lumière ». Enfin, un livre sur Jean Patou. L'homme le plus élégant d'Europe, le couturier, rival de Chanel, possédait des boutiques à Paris, Deauville, Biarritz, New York. Dans les années 1920 et 1930, il habilla des aristocrates italiennes, des stars américaines, Joséphine Baker, Louise Brooks, l'une de ses innombrables conquêtes, créa un sportswear chic, lança des parfums, dont le célèbre Joy, mais aussi le premier cosmétique solaire, huile de caldée. Ses défilés de haute couture devenaient des événements mondains et son hôtel particulier disposait d'un bar où ses clientes prenaient un drink. Le créateur disparut en 1936 à l'âge de 48 ans. Ses héritiers ont récemment ouvert leurs archives privées et en ont fait un album, un hymne à la féminité. Hermès aussi, bien sûr, avec un carré de prestige. C'est un hommage au roi soleil avec cette promenade à Versailles signée Hermès. Vendu au profit de la restauration du château de Versailles, ce carré de soie s'inspire des célèbres canaux et évoque en vignettes colorées les appartements royaux et les jardins. En souscription. Châteaudeversailles.fr, promenade à Versailles. La maison Fabre relève le gant et a le cuir dans la peau. À Millau, Maison Fabre revient aux fondamentaux de sa profession et signe des modèles parfumés, en hommage à la tradition des maîtres gantiers parfumeurs du XVIIe siècle. Nous avons parfois des regrets de ne pas avoir fabriqué ceux des rois de France ou de la cour. C'est pour nous un moyen de garder en mémoire ce legs qui n'est pas le nôtre, mais celui de notre métier, raconte Olivier Fabre. Des gants, mais aussi une bougie et des carnets d'écriture qui exaltent une odeur boisée rappelant celle de l'atelier, parce que nos visiteurs nous disaient tout le temps « Ah, mais ce que ça sent bon ici !» Les éditions limitées ont trouvé naturellement leur place dans le nouvel écrin de la marque, ouvert en avril dans la cour des Senteurs à quelques pas du château de Versailles. En 2014, la société a fêté ses 90 ans avec des projets plein la tête et le rêve de faire du gant Maison Fabre un cadeau parfait. Un peu comme on offre un stylo Montblanc ou un carré Hermès. Le luxe, toujours. Dans la rubrique « Quelles enchères » du magazine Point de vue, l'on trouve aussi de quoi rêver. À l'heure du thé, une théière de François-Thomas Germain. Rarissime, cette théière datant de 1748 et de la main de François-Thomas Germain, l'orfèvre le plus illustre du XVIIIe siècle, après son père Thomas, qui a introduit le style rocaille dans l'orfèvrerie française. Le thé est arrivé en France sous Louis XIV, en même temps que le café et le chocolat, mais ne connut pas tout de suite le même succès. Louis XIV n'aimait pas. En revanche, le régent, qui en raffolait, a lancé la mode, et les théières ont proliféré. Lorsque François Thomas succède à son père, il est nommé orfèvre du roi par dérogation spéciale, car il n'est pas majeur à l'époque. Il conserve alors les bons contacts à l'étranger, particulièrement avec la cour du Portugal. En 1757, Joseph Ier du Portugal lui commande toute son orfèvrerie. Il y travaille près de 8 ans et produit près de 3000 pièces avec Jacques Balin, son collaborateur. La théière a été conservée dans cette même famille portugaise depuis le XVIIIe siècle. Les seuls modèles connus pour l'atelier des Germains sont au musée de Lisbonne. L'estimation se situait entre 200 000 et 300 000 euros chez Sotheby's à Paris. Une tasse de thé luxueuse. Et aussi un petit trésor. Cette vente d'horlogerie de collection offre une sélection éclectique de pièces provenant des plus grandes maisons. Elle propose également quelques exemplaires rarissimes, comme cette montre en or émaillé de l'école de Paris des années 1640. L'invention de la peinture sur émail date du début du XVIIe siècle et cette montre est l'une des premières réalisations utilisant cette technique. La qualité de ces peintures laisse penser qu'elles sont l'œuvre d'un des fils du célèbre Jean Toutain, fondateur de l'école de Blois, qui fut la référence de l'époque. Le boîtier est orné de scènes bibliques telles que, sur le capot, l'Annonciation et la Vierge à l'enfant à la colonne, d'après un tableau de Simon Voué. Au dos, ainsi qu'un paysage polychrome sur le cadran. Au-dessus de la signature de l'horloger, Étienne Chavannes, on découvre un petit cercle en émail blanc avec les aiguilles et les chiffres romains pour les heures. L'estimation était de 20 000 ou 30 000 euros. Arcurial à Monaco. Tic-tac. Marie-France Guémard-Roche vous retrouvera à Versailles dans une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Roland Richard dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.